Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Mag au carré. Encore un très joli programme aujourd'hui, bien dans l'actualité, on va se poser une question. Peut-on parler d'une revanche de l'immobilier logistique? Ça, on le verra avec nos invités. Une chose est sûre, le marché de l'immobilier d'industrie de logistique a plutôt bien résisté en 2020, malgré la crise liée à la pandémie mondiale. Avec moi, pour en parler, évidemment, Audrey Jourdain, rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Bonjour Audrey.
Bonjour Nicolas.
Vous allez bien?
Très bien, et vous?
Eh bien écoutez, oui, en pleine forme. Juste à côté de vous, enfin par écran interposé, hein, dirons-nous, il y a Claire Guédan-Auquin, associée Real Estate Audit et Consulting Europe de Mazars. Bonjour Claire.
Bonjour Nicolas.
Même question, vous allez bien?
Je vais très bien, je vous remercie, je suis ravie d'être avec vous.
Eh bien, c'est partagé. Et puis dans l'autre fenêtre de discussion, Lionel Lacroix-Emerix complète le casting. Bonjour Lionel.
Bonjour Nicolas, bonjour Audrey, je suis ravi de participer à cette émission.
Je rappelle que vous êtes le directeur grand compte hein, de la foncière Magellan. Voilà pour les présentations. Ce que je vous propose à toutes et tous, eh bien, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet avec votre chronique, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Alors, en 10 ans, le poids des locaux industriels et logistiques a considérablement progressé dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Quand même, le volume investi est passé d'1 milliard d'euros en 2010 à plus de 6 milliards d'euros en 2019. Alors même si l'horrible Covid-19 a fait chuter le volume investi de 30% en 2020, on peut dire qu'il a davantage profité à la classe d'actifs qui ne l'a desservi. On peut citer alors par exemple une répercussion positive de la crise sanitaire sur la logistique, le renforcement de l'expansion du e-commerce. Oui, rien de mieux que des magasins fermés pour le faire briller. Certains consommateurs ont augmenté leurs achats en ligne, et d'autres ont découvert les atouts charmes redoutables de ce mode de consommation. Mais alors attention, les exigences des consommateurs se sont renforcées. Ils consomment peut-être davantage sur Internet, c'est un fait, mais sont aussi de plus en plus préoccupés par la consommation responsable. Ils souhaitent notamment privilégier les circuits courts, et les entreprises et enseignes vont devoir s'adapter. Il est d'ailleurs fort probable que les chaînes d'approvisionnement et de fabrication se régionalisent de plus en plus dans les prochaines années. Autre souhait des consommateurs, favoriser leurs commerçants de proximité. Alors tant mieux pour le commerce de centre-ville, mais ici encore, attention, les commerçants de proximité vont devoir être à la hauteur. Et oui, les consommateurs sont habitués au confort du e-commerce. Par exemple, si le libraire de quartier n'a pas assez d'espace de stockage et affiche des délais d'approvisionnement longs, le consommateur aura du mal à résister à l'envie de commander en ligne le livre. Donc tous ces nouveaux enjeux vont demander aux entreprises, aux grandes enseignes et aux petits commerçants de s'adapter vite, très vite. En tous les cas, les prochaines années devraient être dynamisées par la multiplication de locaux industriels et logistiques, et notamment ceux dédiés à la logistique urbaine. Aussi, l'engouement des investisseurs pour le segment devrait se renforcer. Alors attention, point de vigilance, les taux de rendement sont déjà très comprimés. Alors est-ce le moment d'investir? On peut se poser la question. Et d'ailleurs, la pose de panneaux photovoltaïques sur les entrepôts qu'ils permettent serait-elle une des réponses pour augmenter le rendement? Mais avant d'échanger avec nos invités sur les perspectives évolutives de la classe d'actifs, revenons sur les points clés à retenir du marché actuel. Le taux de rendement prime des actifs logistiques s'élève à 3,75% contre 7% en 2010. Celui des locaux d'activité se situe à 4,5%. Alors à noter, les actifs logistiques des régions PACA et Rhône-Alpes ont la cote auprès des utilisateurs, leur demande placée a doublé sur un an. Et dernier point à retenir, le marché lillois est suroffreur avec un taux de vacance supérieur à 11%.
Audrey, merci d'avoir planté le décor. On commence à mieux cerner ce sujet. Une première question peut rentrer peut-être encore plus dans ce thème. Elle est pour vous, Lionel Lacroix. Elle est très simple, cette question. Est-ce le moment, oui ou non, d'investir dans des locaux industriels et logistiques?
Alors, je dirais que c'était très intéressant en 2009 ou 2010, après la crise des subprimes, quand les taux de rendement dépassaient à l'époque 9 ou 10%. Et à l'époque, très peu d'investisseurs s'y intéressaient. Aujourd'hui, là, il y a une compression de taux. Les taux prime se sont bien contractés, comme vous l'avez expliqué. On a des taux prime inférieurs à 4% pour la logistique et des taux prime inférieurs à 5% pour les locaux industriels. Mais Selon moi, ça reste quand même toujours intéressant d'investir malgré cette compression de taux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les taux d'intérêt sont proches de zéro. Il faut avoir en tête que l'Euribor 3 mois est aujourd'hui négatif, il nous entoure de moins 0,50%. Ça engendre effectivement un spread de taux. Alors le spread de taux, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart de taux de rendement entre le taux de rendement et le taux d'intérêt. Et aujourd'hui, ce spread de taux, il est aux alentours de 400 points de base. Donc ça reste toujours intéressant pour des investisseurs qui recherchent un peu de rendement au niveau de leurs investissements.
Quelles sont les forces? Du coup, on a commencé à le dire un petit peu, mais de cette classe d'actifs pour un investisseur, qu'est-ce qu'il doit y voir?
Alors, les forces, je différencierais pardon, deux typologies d'actifs. Alors, la première, c'est la logistique. Alors, les taux de rendement semblent avoir atteint un taux relativement bas, un taux plancher de 3,50-3,75 pour les locaux de logistique, ce qui laisse peu de place à une revalorisation des actifs via une compression de taux. Alors, à ce moment-là, la revalorisation pourrait intervenir grâce à un niveau de loyer qui est relativement faible aujourd'hui sur cette typologie d'actifs. Il faut avoir en tête que les niveaux de loyer pour la logistique en France, il est aux alentours de 55 euros. En Allemagne, on est aux alentours de 80 euros. Et en Angleterre, au niveau du marché londonien, les loyers en logistique dépassent les 180 euros. Donc la revalorisation pour cette typologie d'actifs pourrait intervenir non pas par la compression de taux, mais par une augmentation des loyers.
Et comment
Ensuite,
expliquez-vous ce différentiel entre les valeurs locatives en France et celles des pays voisins?
alors, la France a pris du retard en termes de logistique. On a constaté cette différence depuis une quinzaine d'années et les loyers ont commencé à augmenter depuis quelques années et on le constate sensiblement dans les locaux d'activité. Alors, je vais revenir sur la deuxième typologie d'actifs, il s'agit des locaux industriels. Alors, qu'est-ce que c'est que les locaux industriels? Pour moi, ça comprend la messagerie, les locaux d'activité et les parcs d'activité. Et là, pour le coup, je vois deux atouts principaux. Le premier, je constate qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs des locaux d'activité, c'est celle qui propose les taux de rendement les plus élevés sur le marché. C'est supérieur aux bureaux, c'est supérieur aux résidentiels, c'est supérieur au commerce et c'est supérieur à la logistique. Un deuxième atout qui est intéressant pour les locaux d'activité, les parcs d'activité notamment, c'est aujourd'hui la seule typologie d'actifs qui peut bénéficier d'un levier de création de valeur en cas de changement de destination des bureaux en bureau, en commerce ou en résidentiel. Si l'investisseur achète dans un lieu très bien situé, le potentiel de revalorisation peut être extrêmement important. L'investisseur peut quadrupler, voire quintupler sa mise de départ, si il a investi au bon endroit, au bon moment.
On a parlé des forces. Est-ce qu'on peut parler des faiblesses aussi?
Alors, au niveau
Justement,
des
c'est sur deux
faiblesses,
classes, hein, industriel et logistique.
alors effectivement, j'ai séparé les locaux logistiques et les locaux industriels. Alors, aujourd'hui, les taux sont relativement bas. On a atteint effectivement des taux planchers de l'ordre de inférieur à 4 pour la logistique et inférieur à 5% pour les locaux industriels. Alors, en ce qui concerne la première typologie d'actifs, la logistique, pour moi, je considère cette classe d'actifs comme un marché de masse. Les occupants sont souvent des grands utilisateurs qui occupent des tailles de lots importantes et qui ont un poids significatif dans la négociation avec les bailleurs. Compte tenu de la taille des locataires, c'est à mon sens une catégorie d'investissement réservée à des foncières de taille importante qui peuvent absorber le départ d'un locataire dans leur cash flow. En ce qui concerne les locaux industriels, alors je vais mettre l'accent sur les parcs d'activité considérés comme aujourd'hui le prime dans cette classe d'actifs. Les clients, au contraire de la logistique, sont souvent des PME qui offrent certes une moins bonne garantie de solvabilité, mais cela engendre malheureusement, en cas de crise économique, des taux d'impayés légèrement supérieurs pour les investisseurs. De plus, cette typologie d'actifs, les locaux industriels, les parcs d'activité, nécessite une gestion un peu dynamique de part de leur catégorie d'actifs. Ce sont en effet souvent des multilocataires, des opérations multilots, qui nécessitent d'être confiées à un spécialiste en asset management. Donc, pour répondre à votre question, le parc d'activité, c'est intéressant d'y investir, à condition d'en confier l'asset management à un spécialiste.
Au niveau,
Oui,
Faudrait.
pardon, plus que pour les actifs logistiques, plus que pour les plateformes?
Oui, à mon sens. Alors moi je suis plus un spécialiste des locaux industriels. Comme je l'ai expliqué, la logistique, la compression de taux est, à mon avis, difficile à obtenir. La création de valeur peut être engendrée grâce à la hausse des loyers. Et en ce qui concerne les locaux d'activité, il peut y avoir effectivement des augmentations importantes de valorisation de par leur changement de destination.
Quand on pense à tout ça, comment finalement, en quoi hein, cette chaîne d'approvisionnement et de fabrication doit-elle être réorganisée? Et puis comment, surtout? Dans quelle
Alors,
mesure, dans quelles conditions?
effectivement, la crise sanitaire a mis en avant le rôle essentiel de la livraison des marchandises dans la vie économique. La crise de la COVID-19 a démontré la nécessité pour la France de moins dépendre des importations et de relancer son industrialisation, excusez-moi. À moyen terme, cette réindustrialisation pourrait en effet se traduire par une accélération de la demande de locaux de production. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'on constate? C'est la demande de la logistique du dernier kilomètre qui a déjà accéléré. Dans les parcs d'activité, la logistique du dernier kilomètre représente déjà plus de 20% de la demande placée en 2020, contre moins de 10% avant la crise de la Covid. Il faut savoir que la logistique du dernier kilomètre représente 20% du coût total de la chaîne de livraison. Donc, sur le volet environnemental, le coût est également très lourd. En effet, 35% du CO2 consommé en ville émane des transports de marchandises. Le volume de colis continuera d'augmenter au rythme de 20% par an. Alors la solution pour y remédier, j'en vois plusieurs. La première, c'est d'implanter des sites industriels au sein même des bassins de consommation, des centres-villes, en bâtiments mixtes activités, bureaux, et capables de s'adapter à la demande de la petite logistique du dernier kilomètre. Et enfin, la dernière solution, c'est le mode de transport qui doit évoluer. On a déjà commencé la livraison par drone, qui a déjà été testée au niveau des États-Unis. Et enfin, c'est surtout la livraison par vélo cargo électrique qui devrait prendre son essor. Et c'est, à mon sens, l'une des meilleures solutions qui permettrait de réduire l'impact carbone.
Donc il y a une vraie logique de proximité. Parce que si on a un vélo
Absolument.
carbone, un drone, il faut vraiment qu'on soit proche du lieu de livraison, parce qu'on ne fera pas 200 km en vélo.
Absolument. D'où l'idée de retransformer les bureaux devenus obsolètes en locaux d'activité pour répondre à la demande de la logistique du dernier kilomètre.
Ben justement, sur cette proximité, Claire Guédan-Houquin, peut-être une question pour vous. Quels sont les nouveaux enjeux des commerçants de proximité en termes de logistique?
Alors pour moi, Nicolas, il y a deux enjeux clés pour nos commerçants de proximité et ils sont interconnectés. D'abord, je pense que le commerçant de proximité va remettre de l'humain dans l'acte d'achat et nous en avons bien besoin après ces nombreux mois de confinement ou semi-confinement. Le deuxième enjeu, et il est en plein dans notre sujet de ce matin, il s'agit pour nos commerçants d'assurer en fait la fluidité de l'expérience client qui vont venir s'adresser à eux pour consommer. Auprès des commerces de leur quartier. Et ça, c'est crucial parce que c'est ce qui va permettre à nos commerçants de proximité de rester dans la course face au marketplace aujourd'hui, mais c'était déjà le cas pour eux face aux hyper hier. C'est un must, clairement. Audrey l'a rappelé dans son édito, mais pour bien comprendre ce qu'il se joue, en 20 ans, on a 9,8% du commerce qui est passé du commerce traditionnel de proximité au e-commerce en ligne. En France, aujourd'hui, les achats en ligne représentent plus de 100 milliards d'euros et touchent plus de 40 millions de Français. Et un chiffre aussi que je trouve très marquant, c'est que pendant le premier confinement, on a 2,5 millions de Français qui ont basculé vers des habitudes d'achat répétitives en ligne. Alors, tout n'est pas perdu pour nos commerçants de proximité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, ils redeviennent au centre du jeu de l'achat et l'achat local reprend ses lettres de noblesse. Je pense que l'expérience utilisateur est aujourd'hui plus que jamais au centre des attentes du consommateur. L'acte d'achat local passe par l'humain et c'est ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Tout à l'heure, Audrey évoquait l'exemple des librairies, je l'avais aussi en tête. Je suis agréablement surprise de voir qu'en octobre 2020, selon une étude que j'ai récemment vue, les librairies se portent mieux qu'en octobre 2019. On pourrait penser le contraire, ce n'est pas du tout intuitif. Et pourtant, les chiffres sont là. Je pense que les consommateurs revalorisent l'acte d'achat avec conseil. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut que l'acte d'achat soit fluide pour le consommateur, aussi fluide que celui via Marketplace. Et c'est là où le défi de la logistique rentre en jeu. Je pense que la logistique urbaine, on l'a vu tout à l'heure par la valorisation pour les investisseurs de cette classe d'actifs, hein, revient au centre du jeu. Dans les paniers d'investissement, c'est une classe d'actifs qui revient sur le devant de la scène et ça va porter la transformation du secteur. Donc je considère que c'est un cycle vertueux de transformation de la chaîne de logistique de proximité qui est en train de se mettre en place.
Un cercle vertueux et qui va être amené à accélérer de plus en plus ?
Oui, tout à fait, parce que les choses vont vite et la puissance de frappe en fait des marketplaces est telle que les commerçants de proximité doivent suivre ce rythme. Je pense que le premier des enjeux qui se pose pour les commerçants de proximité est un enjeu de gestion même des stocks. En fait, il est plus possible pour eux de gérer les stocks en se fondant uniquement sur l'historique de leurs seuls achats. Les besoins, tout comme les catalogues, se renouvellent en permanence et le commerçant de proximité, pour rester attractif, doit être capable de s'aligner sur les meilleures références, les références les plus actuelles. Pour ça, en fait, ils vont pouvoir accélérer leur positionnement dans cette course en anticipant les tendances à venir. Ce qui n'est pas simple face à la diversité de l'offre qui est aussi déterminante et face à la granularité en fait, finalement du commerce de proximité.
Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut anticiper avec la data, il faut maîtriser la data pour pouvoir après programmer, anticiper et puis le cas échéant proposer vraiment la bonne offre.
Tout à fait. Je pense que la data est pour les commerces de proximité aussi au centre du jeu et que nos commerçants de proximité ont intérêt à jouer collectif. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions digitales et de start-up qui se saisissent de la problématique de la logistique du dernier kilomètre qui a été évoquée précédemment. Il y a beaucoup, beaucoup de données clients. Le problème, c'est que pour les commerçants de proximité, cette donnée client, elle est très éclatée. Moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, ils resteront dans le game, s'ils savent mutualiser cette donnée. Et en particulier, je pense que les centrales d'achat ont une carte à jouer dans cette analyse de la donnée plus massive par regroupement, par zone, par type d'achat, par secteur d'achat, par chaîne de distribution, et que les commerçants de proximité, en fait, doivent s'unir, finalement, pour être capables de maîtriser eux aussi la donnée de masse de leurs clients.
L'union,
Pardon.
Non, je vous en prie,
l'union
Claire.
L'union fait la force, tout à fait.
C'est ce que j'allais vous dire, l'union fait la force. Lionel, vous êtes d'accord? L'union fait la force?
Absolument, l'union fait la force.
Et je pense
que cette mutualisation de l'analyse de la donnée, elle joue aussi pour la mutualisation des espaces de stockage en centre-ville, parce qu'on voit bien que l'espace de stockage en centre-ville coûte très cher, les mètres carrés d'entrepôt à proximité des commerces de centre-ville qui permet d'éviter la trop longue distance. Vous avez vu tout à l'heure, on ne fait pas 200 km en vélo, c'est clair. Ça va passer aussi par des solutions de mutualisation des mètres carrés de stockage pour gérer cette problématique du dernier kilomètre. On a déjà vu des startups qui proposent de mutualiser des espaces de stockage non utilisés pour des actifs bureaux et les orienter vers des actifs de logistique. On voit apparaître de plus en plus d'offres de co-stocking. Donc, on va avoir des commerçants qui vont être amenés à se grouper pour utiliser en commun des mètres carrés et en optimiser, en fait, le prix.
Le co-stocking, Lionel, vous le voyez aussi apparaître, ça? Vous le voyez monter?
Pas encore à mon niveau, mais ce qu'on voit apparaître, c'est de plus en plus les transformations de friches industrielles extrêmement bien situées en périphérie urbaine des grands bassins de consommation. Qui se transforme petit à petit en locaux d'activité et notamment en logistique du dernier kilomètre.
J'avais une question justement, peut-être claire sur cette logique du dernier kilomètre et de proximité. Est-ce qu'il vaut mieux acquérir en plein centre d'une ville ou au contraire être vraiment aux portes de la ville et bien cibler tout autour, toute la périphérie de la ville?
Moi, je pense qu'il faut être rapide dans l'achalandage, en fait, finalement. Pour les commerçants de proximité, le game, il passe par être capable de répondre à la demande rapidement. En tout cas, quasi aussi rapidement que ce que pourrait le faire une marketplace pour ne pas perdre l'avantage concurrentiel de la proximité par rapport à ses centrales d'achat. Donc, l'espace de stockage, ensuite, ça va être une équation à rechercher entre le coût du mètre carré et cette capacité à traiter rapidement le dernier kilomètre.
Donc des flux, des stocks,
La réponse,
l'innovation,
voilà,
la
la
data.
réponse est multiple. Je pense que la réponse passe par une analyse fine des références à avoir en stock au plus près et une capacité à gérer le dernier kilomètre par des sous-traitants, parce que les commerçants ne sont pas équipés pour gérer forcément, pour gérer cette logistique du dernier kilomètre.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a tout intérêt à innover.
Tout à fait.
Et comment on innove justement dans ce domaine de la logistique? Vous l'avez dit, l'union fait la force, on s'entoure de gens compétents sur de la data, sur l'information au sens global du terme, mais ça concerne quoi aussi l'innovation dans cette logistique de proximité du dernier kilomètre?
Quelques
Alors,
exemples concrets de solutions.
la modification du mode de transport commence à prendre de l'essor. Vous voyez de plus en plus en ville de l'apparition de vélos cargo électriques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vélo cargo? C'est un vélo de taille un peu plus grande qui permet de transporter des marchandises. L'essor du marché du vélo s'est accentué d'année en année. Et je pense que les utilisateurs, les occupants vont devoir changer complètement leur méthode de livraison du dernier kilomètre de par soit la livraison par drone, comme je l'expliquais, soit par la livraison via des vélos de type cargo électrique.
Vous acquiescez, Claire?
Oui, tout à fait. Je pense que le vélo, on voit bien, il y a quelque chose qui se joue autour du vélo, sur la logistique aussi, bien sûr. Et je pense aussi, en complément de ces premières pistes, qu'il y a une vraie réflexion sur l'optimisation de l'espace en centre-ville, en fait. Donc c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Hein. Moi, je crois vraiment en l'utilisation en fait des bases de données qui sont traitées de manière massive par les marketplaces. Demain, c'est des informations et des produits qui vont être mises à disposition, qui vont être vendues à des acteurs de la distribution, plus de proximité. Et c'est ces données-là qui vont permettre aussi d'aller vraiment cibler plus précisément ce qu'il est nécessaire d'avoir sur place de ce qui peut être éloigné en périphérie.
Est-ce que le temps de crise que l'on connaît actuellement, qui est dramatique sanitairement, qui est extrêmement difficile économiquement parlant, est-ce qu'on peut le voir comme un tremplin aussi?
C'est pour moi un accélérateur. Effectivement, la crise du Covid a démontré qu'on avait besoin de changer un petit peu notre méthode de consommation. Le e-commerce s'est développé depuis une dizaine d'années et commence à prendre son essor. C'est plutôt une accélération qui s'est passée en 2020 avec cette crise de la Covid-19.
Les tendances étaient là, ça a été accentué en 2020.
Oui, je partage tout à fait. C'est vrai pour la logistique et c'est vrai pour beaucoup de domaines. Pour moi, on est en train d'assister à une redéfinition en profondeur des circuits logistiques et de l'immobilier de logistique urbaine. C'est un marché qui manque encore de maturité, donc ça attire beaucoup d'investisseurs vers cette classe d'actifs, avec des niveaux de rentabilité qui ont été évoqués précédemment, qui sont très satisfaisants. Ça va porter en fait cette transformation, ça va l'accélérer. Donc, je suis vraiment convaincue que c'est un secteur qui va énormément se transformer, avec beaucoup de création de valeur.
Et que pensez-vous de la transformation de niveau de niveau souterrain en locaux de stockage, en espace de stockage? Est-ce possible? Est-ce difficile? En termes de
Alors,
flux, en termes de
vous
flux?
parlez notamment des transformations. Alors, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il va peut-être y avoir des transformations de parking en sous-sol, en locaux de stockage. On a commencé à le voir apparaître, mais c'est quelque chose qui pourrait prendre un essor au cours des prochaines années.
Mais
La transformation de parking en espace de petit stockage.
il y a des problématiques parce que le flux, les flux routiers pour arriver à ces espaces de stockage ne sont pas prévus. Il y a aussi des problèmes de surcharge. Pensez-vous que beaucoup de niveaux souterrains sont transformables en locaux, en espaces de stockage ou en fait très rares sont ces espaces qui peuvent être transformés.
Alors, à mon avis, alors, il faut tenir compte d'une règle principale, c'est les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Ça peut avoir un sens dans la mesure où les stockages sont relativement réduits. Et deuxième raison, comme vous l'avez justement expliqué, c'est la résistance au sol du dallage. On ne pourra pas effectivement mettre trop de stockage compte tenu des résistances qui sont relativement faibles dans les parkings en sous-sol.
D'accord.
Claire, peut-être le mot de la fin pour essayer de résumer.
Alors, sur les parkings en sous-sol, je vais vous dire que j'observe pas beaucoup d'exemples à ce stade, hein, ça viendra peut-être, de transformation en marche de parking en espace de stockage de proximité. Le mot de la fin, eh bien, écoutez, moi je crois beaucoup à la capacité du commerce de proximité à se transformer pour revenir au centre du jeu de l'acte d'achat avec de l'humain. Avec du conseil, et je pense que c'est très complémentaire de ce que proposent les marketplaces ou les hyper.
La place pour tout le monde. Lionel?
Oui, bah écoutez, moi je reste persuadé que les locaux industriels, les locaux par l'activité restent des investissements d'avenir et qui intéressent de plus en plus d'investisseurs. Il y a de la place à prendre pour les investisseurs sur cette typologie d'actifs.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Lionel Lacroix, Claire Guédan-Quinn d'avoir été nos invités ce matin dans le Mago Carré. Merci beaucoup Audrey d'avoir co-animé cette
Merci
émission.
Nicolas.
Juste voilà, le temps, une petite minute avant la fin de cette émission, juste le temps de vous dire eh bien que le podcast hein, de cette émission est à retrouver sur notre site radioimo.fr. Suivez-nous, suivez-les hein, sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, eh bien, on se dit à très vite. À bientôt. Ciao.
Le Mag au carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.